C'est fou la trouille qui inspire désormais Wagner en Afrique de l'Ouest aux puissances occidentales. Ce mercredi 16 février, RFI a fait état de la demande d'un chef rebelle tchadien, en l'occurrence Timane Erdimi, leader de l'UFR, de vouloir par RCA interposé entrer en contact direct avec la Russie et partant avec Wagner. Au Tchad, c'est l'inquiétude après la circulation sur les réseaux sociaux d'une conversation téléphonique enregistrée entre le leader d'un groupe armé tchadien et un ancien ministre centrafricain au sujet du groupe Wagner. Hier après-midi, les parlementaires tchadiens ont pris à partie le ministre tchadien des Affaires étrangères, demandant à ce que l'ambassadeur de Centrafrique vienne s'expliquer sur les liens entre Bangui et Timane Erdimi. Dans le document sonore, authentifié par plusieurs sources, Timane Erdimi, leader de l'UFR, s'entretient avec un ancien ministre conseiller spécial du président centrafricain, Abdulkassim Algoni Tijani. On entend le chef rebelle tchadien faire partie de sa volonté de convaincre le groupe paramilitaire russe Wagner, très actif en Centrafrique, aux côtés du gouvernement de ce pays, de l'aider à chasser du Tchad le président du comité militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Voici comment la France, qui a réussi en été 2021 de se débarrasser via un guet-apens peaufiné sous forme d'une pseudo-offensive rebelle de l'ex-président Déby, car l'ancien amphore du Tchad refusait que son pays et surtout son armée, l'une des plus puissantes de l'Afrique, deviennent des mercenaires pour l'axe nouvellement formé en Afrique et qui est composé des éléments soutenus par l'axe US-OTAN. Voit les choses désormais au lac Tchad, soit depuis que l'État-nation malien la pousse vers la porte et que sa Barkhane est réduite à l'état de la cible légitime d'une population sahélienne qui en a assez de l'occupation de ses terres, de ses richesses, au nom d'une lutte occidentale qui n'a jamais été contre les terroristes mais contre les Africains. Remarquons que la crainte la plus vive dans cet article de RFI est moins le fait que le fils Déby soit chassé du pouvoir par une alliance rebelle Wagner que le fait que Bangui soit associé à une partie de rebelles tchadiennes, une partie que, rappelons-le, les Mirage 2000 de la France ont d'ailleurs bombardé lors d'un assaut vers la capitale en 2020. Au fait, on a même l'impression que cette affaire vise davantage Bangui que le Tchad, ce qui saute aux yeux à travers un second article publié ce matin, où le média colonialiste qui est RFI s'obstine à publier les démentis de la RCA tout en glissant le mot « diable » pour qualifier le Wagner tel qu'il apparaîtrait aux yeux du chef de la transition, Mahamat Déby. Pour le gouvernement tchadien, une chose est claire, pas question de s'asseoir à la même table que Timane Erdimi, qui veut pactiser avec le groupe Wagner, le diable à ses yeux. Il estime désormais que le leader de l'UFR s'est exclu de lui-même du pré-dialogue de Doha. Sous prétexte qu'il veut chasser la France, il veut chasser le conseil militaire de transition, mais si Timane Erdimi est capable d'aller pactiser avec le diable pour venir semer le trouble, venir semer la déstabilisation dans le pays, c'est une chose extrêmement grave. Nous n'accepterons pas que cet homme qui projette de faire la guerre au moment où les gens veulent faire la paix puisse assister à un pré-dialogue, s'insurge le porte-parole Abderrahman Koulamallah. Après tout, pour être un groupe paramilitaire, Wagner ne s'engage pas sur n'importe quel terrain si l'État concerné ne le lui demande pas. Et c'est ce qui a été le cas de la RCA ou du Mali. Quelque chose dit que les choses ne vont pas bien pour la France au Tchad non plus. Que le fils Déby ne satisfait pas entièrement les exigences. Un nouveau coup d'État est en préparation ? Bien que les médias mainstream veuillent faire croire qu'après le retrait de Barkhane, rien n'est terminé et que les forces d'occupation étrangères pourront maintenir leur mainmise dans cette région sous d'autres formes, le Mali, qui a noué de solides relations avec l'axe de la résistance, laissera-t-elle la France maintenir sa présence contre la volonté du peuple malien dans ce pays ? En effet, ce qu'exige le peuple malien, c'est le retrait pur et dur des forces militaires du Mali et non pas une transformation de la forme de cette présence. Une idée semble faire son chemin. celle de dupliquer dans d'autres pays le concept de task force européenne, comme l'est aujourd'hui Takuba. Selon Paris, le Niger serait aussi intéressé. L'expérience de travail entre forces spéciales européennes et armées nationales est une expérience qui intéresse les autorités nigériennes et nous allons voir comment nous pouvons le décliner dans le pays, explique un conseiller du président français qui ajoute « L'idée, c'est de garder une méthode qui a fait ses preuves au Mali », lit-on sur RFI. Il est très clair qu'au Mali, depuis que cette junte a décidé de se rapprocher de l'Algérie, de laisser la Russie s'introduire dans les régions du Nord au détriment de la force d'occupation française, un peu à l'image de la RCA et qu'elle va jusqu'à étaler des liens avec l'Iran, en organisant une visite de son ministre des Affaires étrangères à Téhéran et d'évoquer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le secteur économique, il y a un gros coup de panique au sein de l'actuelle OTAN et surtout chez la France qui voit le résultat du second coup d'État tomber à l'eau. Car le fait que la nation malienne, qui continue à se battre contre l'occupation étrangère, décide de choisir des alliés et qu'elle aille voir du côté de ses voisins puissants comme l'Algérie, puis du côté de l'Iran, cela veut dire que le concept de la résistance est largement consolidé. En effet, lors de sa dernière visite en Iran, une visite qui a choqué plus d'un dans le cercle de l'axe occidental, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que son pays souhaitait renforcer les relations avec l'Iran, notamment dans les domaines commercial et économique. Diop a invité Amir Abdollahian à effectuer une visite à Bamako, ou plutôt ce qui a été accepté par la partie iranienne. Les deux ministres des Affaires étrangères ont également souligné la nécessité d'élargir la coopération sur des questions d'intérêt commun, notamment l'éducation, la santé, les technologies modernes, l'élevage et l'énergie, en particulier l'énergie solaire, et se sont mis d'accord sur une feuille de route pour renforcer les coopérations. En effet, les Africains, pour avoir été victimes des décennies de colonialisme et d'impérialisme des Européens et des Américains, ne peuvent ne pas être sensibles à la lutte acharnée d'une vieille nation qui, depuis 40 ans, calme la justice, l'équité entre les peuples et qui combat auprès du sang de ses meilleurs fils cette idée d'un ordre international égalitaire où la France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, la couronne britannique et puis les Yankees ne puissent arroguer le droit autoproclamé de disposer des richesses inouïes d'un continent noir contre lequel ils sont depuis des siècles en guerre sans pouvoir pour autant y éteindre les flammes de la résistance. Le penchant du Mali vers l'Est et le soutien qu'apporte son peuple à cette décision n'est qu'un début pour pousser la France vers la porte de sortie du continent. Sécurité, santé et stabilité, ce sont les trois défis communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour changer la donne de leurs relations lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine ce jeudi et vendredi à Bruxelles. Mais est-ce réellement l'objectif de ce sommet ? De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé un entretien exclusif à France 24 et à RFI depuis Bruxelles où a lieu un sommet entre l'Afrique et l'Europe. Le chef d'État a déploré le départ présagé des troupes françaises et qui laisse un vide. Comment peut-on analyser ces propos ?
C'est un sommet très important, mais qui est parasité par la question française du départ du Mali. La grande question, c'est de savoir si l'Union européenne veut apparaître comme un partenaire fiable. Et le départ des Européens n'est pas souhaité par les chefs d'État africains. Des gens comme Ouattara, par exemple, ils considèrent qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que l'Afrique est libre de choisir ses alliances avec le bloc de l'Est, en particulier avec la Russie, mais en même temps qu'il y a une place pour les Européens. Mais la question des Européens, c'est de savoir si l'Union européenne va lier son sort à celle de la France. Si l'Union européenne apparaît comme une manière pour la France de rester dans le Sahel et en même temps l'Union européenne apparaît pour ce qu'elle est souvent, c'est-à-dire le bras politique de l'OTAN, dans ce cas, elle va être entraînée dans la chute de la France. Ce qui caractérise l'époque, c'est ce qu'on appelle le déclassement français, comme un retentissant livre vient d'être publié il y a quelques semaines et qui étudie le déclassement de la France, pas seulement en Afrique, mais également au Proche-Orient ou dans l'océan Pacifique. La France essaye de garder un pied au Sahel au travers ses partenaires de l'Union européenne, ses partenaires de l'OTAN et également ses partenaires de l'ONU. Si évidemment les Européens se laissent tomber dans ce piège, ils vont être entraînés dans la chute de la France. La question des gens comme Ouattara, par exemple. Ouattara, c'est le plus pro-français des chefs d'État africains. Il est caractérisé par les panafricains comme un sous-préfet français et il a lié toute sa carrière aux intérêts français. Ouattara soutient la politique française qui dit qu'il va avoir un vide sécuritaire lors du départ des Français. Ce n'est pas vrai du tout puisque ce vide sécuritaire, il est comblé justement par la montée en puissance des armées africaines comme celle du Mali ou de la France-Afrique, mais également par l'arrivée des partenaires russes, mais également des partenaires iraniens. Un certain nombre de chefs d'État sont actuellement assis entre deux chaises géopolitiques, c'est-à-dire qu'elles gardent des liens qui sont très forts avec les Français, mais elles sont en train de nouer des liens avec le Bloc de l'Est. C'est le cas, par exemple, de Macky Sall au Sénégal, c'est le cas d'autres chefs d'État. Ceux-là vont devoir faire un choix. Il est bien certain que le partenariat avec l'Union européenne, c'est une manière de garder le contrôle avec les Occidentaux, mais en même temps de se tourner vers le Bloc de l'Est. La vision de Macky Sall, qui est intervenu dans une conférence de presse avec le chef de l'Union européenne, Charles Michel, nous ne sommes pas parents, je tiens à le préciser, j'en suis fort aise, mais Charles Michel, c'est le chef de ce qu'on appelle la France-Afrique à la Belge, c'est-à-dire le lobby néocolonial belge en Belgique. Si, évidemment, le choix qui est donné actuellement par des chefs d'État comme Macky Sall, c'est de faire un choix entre les partenaires occidentaux et le Bangladesh. Voilà toute la problématique de ce sommet, c'est de ne pas apparaître, surtout pas, comme lié à la France, parce que dans ce cas, l'Union européenne sera entraînée dans la chute de la France-Afrique.
Dans sa note d'information adressée aux actionnaires Victoria Oil & Gas, maison mère de gaz du Cameroun annonce que son bloc d'exploitation de l'Ogbaba dans la région de littoral a produit 21 milliards de pieds cubes de gaz naturel au quatrième trimestre 2021. Le producteur et distributeur de gaz naturel Victoria Oil & Gas, dans une note d'information récemment adressée à ses actionnaires, a fourni une mise à jour de ses opérations au Cameroun, dans laquelle elle annonce que le bloc de l'Ogbaba, situé dans la région du littoral exploité par sa filiale locale Gaz du Cameroun, a produit 21 milliards de pieds cubes de gaz naturel au quatrième trimestre 2021. Ce, après avoir franchi le cap des 20 milliards de pieds cubes en juillet de la même période. La 108 a été enfermée le 25 décembre 2021 pour permettre au puits LA107 de commencer la production. La filière bois au Ghana s'est extrêmement bien portée sur l'année 2021. Par rapport à 2020, les exportations ont bondi de 35% en volume à 302 229 mètres cubes et de 18% en valeur générant 136 075 millions d'euros selon l'unité statistique et recherche de la division développement de l'industrie du bois du Ghana. Ceci dit, ces chiffres demeurent encore en décat de leur niveau en 2019 avant la COVID, précise l'Organisation internationale des bois tropicaux. Le Ghana a exporté 17 produits du bois différents, chaque segment s'inscrivant en hausse à l'exportation en 2021 par rapport à 2020, à l'exception du plaquage déroulé qui a terminé l'année en baisse de 12%. Les marchés asiatiques ont été la destination de 65% des volumes exportés, 17% allant vers l'Europe, 13% vers le reste de l'Afrique, 4,6% vers l'Amérique et 3,6% vers le Moyen-Orient. Le teck, seba, vava, le wolfram noir et le denia ont constitué les principales essences exportées. Selon le CETUD, Dakar abrite près de 24% de la population totale du pays et 70% du parc automobile immatriculé sur une superficie équivalent à seulement 0,3% du territoire national. Il y a donc des enjeux de mobilité qui obligent le gouvernement à réajuster sa politique en matière de transport. Le chantier du projet BRT de Dakar sera achevé au premier trimestre de l'année 2023, rapporte Tierno Pirahim, directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Le projet lancé en octobre 2019 est destiné à relier le centre-ville de la capitale sénégalaise à sa banlieue. L'infrastructure, dont le coût est évalué à 300 milliards francs CFA, s'étend sur un linéaire de 18,3 km entre la ville côtière de Guadivaye et le centre-ville de Dakar. Le tracé doté de 144 bus desservira 23 stations fermées. Dans le centre de Nairobi, au Kenya, il n'est pas facile de respirer de l'air pur. Les mototaxis, aussi connus sous le nom de bodaboda, participent grandement à l'augmentation de la pollution atmosphérique de la capitale. Le nombre de nouvelles immatriculations de motos utilisées comme taxi ou bodaboda était estimé en 2018 à 1,5 million et il pourrait être largement multiplié d'ici 2030, explique Joyce Souya, directrice exécutive adjointe de l'ONU Environnement. Dans cet atelier du groupe suédo-kenyan de véhicules électriques Opibus, les employés s'activent pour réduire le taux de pollution de la ville. Uber fournit évidemment beaucoup de conducteurs de bodaboda. C'est notre client cible, détaille Alex Pitkin, le directeur technique d'Opibus. Souvent, ils ne savent pas à quel point les motos électriques peuvent être bénéfiques en termes d'économie, d'argent, de sécurité, d'économie de carburant ou encore d'entretien. En 2019, la pollution atmosphérique a causé plus de 5000 décès prématurés au Kenya, selon le rapport State of the Global Air de 2020.